Je suis vraiment ravi d'être parmi vous ce matin et cet après-midi et pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Il se fait que j'ai été élevé dans une famille, dans une famille humaniste, passant par l'école primaire et secondaire. Passer par l'école primaire et secondaire officielle. Et à l'âge de 14 ans, j'ai rencontré un jeune à l'école qui était adventiste. Le contact était là. J'ai participé aux activités de jeunesse tous les sabbats après-midi. Le sabbat matin, je devais aller à l'école, comme c'était l'habitude à l'époque. À un certain moment, j'ai décidé de me faire baptiser quand j'avais terminé l'école normale. Je pensais devoir approfondir cette petite connaissance biblique que j'avais et je partais pour Collonges, pas pour devenir pasteur, pas question, simplement approfondir le message biblique. Et c'était un choc réel pour moi de me trouver dans une très grande église, 600 membres à peu près, et de trouver sur l'estrade que des hommes. 5 hommes sur l'estrade, le pasteur, l'ancien, l'autre ancien, un diacre, un directeur d'école du sabbat, des hommes. Je devais m'habituer un tout petit peu parce que dans le foyer, dans la famille où j'ai grandi, hommes et femmes avaient le même statut et même à l'école officielle, c'était la même chose, coéducation. Mais là, vraiment, je devais m'habituer que les femmes n'avaient pas le droit à la parole et que les hommes dirigeaient tout. Il y avait des anciens consacrés, des diacres masculins consacrés, mais pas pour le reste. Alors, bien sûr, j'ai passé par tout un parcours. Colia en vient de mentionner une partie. Travaillé aux Pays-Bas, travaillé en Australie, en France et en Belgique. Et il faut dire que cette question d'inégalité entre l'homme et la femme, qui est une chose tout à fait évidente dans l'histoire de l'Église, depuis sa naissance jusqu'au XXe siècle, m'a toujours dérangé. Ça m'a dérangé pour une raison personnelle, vu mon éducation, vu ma perception des choses. Et la question est-ce que c'est correct que l'histoire de l'Église a toujours présenté l'homme supérieur à la femme? Et pour cela, je pense que la meilleure chose, c'est de lire la Bible correctement, non pas avec des préjugés, non pas à partir de doctrines, dogmes ou peu importe, mais simplement épeler le texte. Et donc, pour cela, nous allons passer aujourd'hui à une étude passablement approfondie de Genèse 1 et 2. Donc, ce matin, ce n'est qu'une partie. Si vous voulez entendre toute l'histoire de la Bible, il faut aussi l'après-midi. Maintenant, il est clair que je ne vais pas donner de cours d'hébreu. Pas question. Regardez le français, mais les couleurs correspondent. Comme ça, vous pouvez avoir une idée. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est le début de ce premier récit. Et 4a, 2-4a, voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. C'est là où le premier récit de la création se termine. Vous le voyez très bien, les cieux, la terre, et puis le 4b, lorsque Adonai Dieu fit la terre et les cieux. Et là commence un deuxième récit, qui complémente, qui correspond au premier, mais qui ne répète pas la même chose. Alors, nous allons explorer d'abord ce matin le premier récit et se poser la question de quoi il s'agit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez que l'hébreu se lit de droite à gauche, et ceux qui ont petite connaissance peuvent vérifier si je ne vous raconte pas de contes de fées. Et la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors voilà, la terre est informe, invue, hein, comme le texte dit, et vide. Ces deux termes en hébreu qui indiquent qu'il y avait le chaos, il y avait la mort, il n'y a pas de vie. Et la deuxième phrase, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, souligne cela. Il y a obscurité, il n'y a pas de vie, il n'y a pas rien du tout qui bouge, seulement l'Esprit de Dieu ou le souffle de Dieu. Le mot qui est utilisé, c'est le souffle que nous avons tous. Il se mouvait au-dessus des eaux. Il se mouvait et il faisait ça comme, comme un oiseau le fait au-dessus de son nid. Un peu ainsi, pour transmettre de l'énergie aux petits dans son nid, le souffle de Dieu sur cette matière morte, sans vie, bougeait au-dessus. Et puis, après cela, il dit qu'il y ait de la lumière et la lumière fut. Alors, ce qui est un peu intéressant pour nous, c'est que ce premier mot au commencement, ou groupe de mots si vous voulez, en hébreu, vous lisez de droite à gauche, la première consonne qui est utilisée ici en noir, hein, qui est tirée de... Regardez, non, ça ne marche pas. OK. Qui est repris et je l'ai mis au milieu. C'est une chose que beaucoup de gens ne se réalisent pas, que, au fond, le texte commence avec une préposition. Et alors, on a l'impression, en tant que nous, occidentaux, de vouloir savoir quand était ce commencement, où est-ce qu'il faut le situer. Et une chose intéressante, c'est pour ça qu'il y a cette flèche, qui montre vers l'autre côté, parce qu'on lit de droite à gauche, que cette question est considérée par les rabbins, et quand même c'est nos frères aînés, qui ont côtoyé la Bible pendant 3000 ans, au moins, ouais, ils disent, voilà, il ne faut pas poser des questions à propos de ce qui s'est passé avant. Il ne faut pas regarder la lettre qui s'appelle Beit, elle est fermée, sur l'écran ça ne marche pas, est fermée de ce côté droite, à droite, fermée. Donc il ne faut pas se poser des questions là-dessus, et non plus au-dessus, parce que la lettre Beit est fermée au-dessus. Donc il ne faut pas poser des questions ce qui se passe là dans le ciel, ni en dessous de la terre. Ce n'est pas des questions qu'il faut poser. Quand on lit le récit de la Bible, il n'y a qu'une chose qui est importante, c'est là où il y a l'ouverture. Qu'est-ce qui va se passer? Le pourquoi de cette création? Alors, vous comprenez, cela déjà nous illumine pour comprendre un tout petit peu comment les choses se passent. Alors voilà, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, Dieu vit que la lumière était bonne. Bonne, vous connaissez ce mot, vous l'utilisez aussi en bruxellois, tov. Tov, c'est comme ça, c'est super. Ça correspond à l'intention de celui qui a fait la chose. Un artiste a fait quelque chose, il a terminé, il dit, ouais, c'est bon, c'est exactement ce que j'avais en tête. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Chose intéressante encore, certaines personnes ne se rendent pas compte que dans l'esprit israélite, hébreu, juif, le jour commence le soir. Parce qu'on ne peut pas définir quand le jour commence. On peut dire, voilà, quand le soleil se lève, oui, mais le soleil se couche et il n'y a pas 24 heures qui ont passé. Alors, les rabbins, les juifs, ils ont dit, un jour commence là où le jour précédent se termine. C'est au coucher de soleil. C'est pour ça qu'il y a, il y eut un soir, il y eut un matin. Et ce fut jour 1, non pas premier jour. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas encore question d'un deuxième, troisième et quatrième jour, etc. Ça vient après. Et Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. et il sépare ainsi cette masse d'eau qui était sur la terre, il la sépare, il fait une certaine coupole, un dôme, et puis ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Là, c'est correct. Le « e » doit disparaître là, le second jour. Et Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit que la terre produise de la verdure. Et Dieu vit que cela était bon. Vous voyez donc un rythme. Il approuve ce qu'il a fait. Et puis, ce fut le troisième jour. Et ainsi, le récit de la création nous avance vers, comme vous le savez, vers le septième jour. Quatrième œuvre créatrice de Dieu, parce que vous le voyez, et Dieu fit les deux grands luminaires. Là, c'est intéressant, les étoiles. Il dit la grande lumière et la petite lumière. Très intéressant, parce que dans l'ancien Moyen-Orient, le soleil et la lune avaient un nom, c'était des dieux qui étaient adorés. Pas en Israël. Donc c'est vraiment un affront pour tous ceux qui ne sont pas israélites de voir que leur Dieu ne soit pas nommé et qu'ils reçoivent une tâche. L'un doit régner sur la journée et l'autre pendant la nuit. Et il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour, et Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, etc., etc., et Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. On continue, et Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, et Dieu vit que cela était bon. Vous arrivez à calculer combien de fois il trouve que c'est bon, hein? Nous en sommes maintenant à 6. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Très important. À notre image, qu'est-ce que ça veut dire? En hébreu, ce mot veut dire exactement une copie exacte de Dieu. Ah, pour nous, occidentaux, c'est un peu difficile à saisir, mais il faut le prendre au mot. Puis il est ajouté selon notre ressemblance. Ça veut dire l'homme est exactement comme Dieu, mais pas entièrement. Et le texte qui a été lu pour l'histoire des enfants en dit beaucoup. Il dit qui est l'homme que tu prends soin de lui? Qui est le fils de l'homme qui est pareil? C'est pareil. Que tu t'intéresses à lui, tu l'as fait un peu moins que Dieu. Il y a des versions, il y a des traductions qui disent des anges. Non, en hébreu, hein, c'est vraiment un tout petit peu moins de Dieu. Tu l'as failli le créer comme toi, mais non, pas entièrement. C'est très intéressant pour se rendre compte combien importants les hommes, les humains sont par rapport à Dieu. De par le passé, on a créé à partir des Perses une hiérarchie. Il y a Dieu, Ahura Mazda, ouais, il y a les archanges, il y a les anges, là il y a l'homme masculin, ouais, et puis il y a la femme, et puis il y a les animaux. Ça c'est la culture perse qui a influencé le peuple juif. On a parlé de Néhémie et Esdras. Eh bien, dans cette culture, ça a été conçu comme cela. Et quand, en Alexandrie, en Égypte, déjà une époque un peu plus avancée, on a commencé à traduire ce texte hébreu un peu moins que Dieu, on a trouvé que ça ne va pas. Donc, on a dit, voilà, il faut traduire cela un peu moins que les anges. Et ça revient quelque part dans l'Épître aux Hébreux, mais là aussi, il faut bien l'entendre. Donc, ce n'est pas une question de lire le texte d'une façon subjective. Moi, je pense que maintenant, je vais lire et je vais l'interpréter. Non, nous suivons les textes mot après mot, phrase après phrase. Et vous voyez ici, et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Cela implique que l'homme et la femme ont été créés très bonnes. trop souvent, par une certaine approche dogmatique, on a l'impression que l'homme et la femme ne sont pas bonnes. Hein, que, par exemple, le calvinisme, le calvinisme dit « l'homme, il est entièrement mauvais et pas capable de faire quoi que ce soit de bien ». Heureusement que notre Église ne les suit pas. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le sixième jour. Vous voyez la différence? Second jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, le sixième jour. L'article y est. Dieu acheva le septième jour. Je ne peux pas le mettre parce que c'est en français le O à le, hein, mais c'est le septième jour. Son œuvre qu'il avait faite, il se reposa le septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite, et Dieu bénit le septième jour et le sanctifiait. Le fait qu'il y ait un article là indique que c'est un jour qui sort de l'ordinaire. Ce n'est pas un jour qui suit simplement, non, le sixième jour, il est positionné au-dessus des autres jours. Et pourquoi? Parce que là, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et cet homme a reçu la tâche de régner sur tout ce qui précède. Donc, voilà, le sixième jour est spécial, et puis aussi le septième jour, on y reviendra. Regardez un tout petit peu comment ce récit a été construit. Avec une intro, Dieu créa les cieux et la terre, et il y a le chaos. À la fin, Dieu a créé les cieux et la terre. Voilà, situation initiale, il y a le chaos, mais il y a le souffle de Dieu qui tournoie, hein, qui meut au-dessus des eaux, et la situation finale, c'est le septième jour, son œuvre est achevée, il y a le repos. Donc, vous voyez comment le tout bascule, et entre ces deux situations initiales et finales, nous avons le premier jour, ou jour 1, pardon, second jour, troisième jour. Vous voyez, premier jour, une œuvre créatrice, deuxième jour, une œuvre créatrice, troisième jour, deux œuvres créatrices. Ça se passe aussi dans la deuxième série, quatrième jour, les luminaires, qui correspondent à la lumière et les ténèbres. Les luminaires, soleil, étoile et lune, doivent se partager la tâche pour le jour et la nuit. Cinquième jour, il y a les oiseaux et les poissons qui correspondent au deuxième jour parce qu'ils peuvent vivre dans l'eau et dans l'air. Et puis le sixième jour, c'est les animaux qui ont leur place sur la terre, vous voyez les couleurs correspondantes, oui, et doivent se nourrir des plantes. Il s'agit là de tout ce qui porte de semences, non pas la verdure, mais semences. Et puis l'homme, et vous voyez là de nouveau, quatrième jour, une œuvre créatrice, cinquième jour, une œuvre créatrice. Sixième jour, deux œuvres créatrices. Vraiment, c'est une question de miroir. Et l'homme aussi vit sur la terre. Ouais. Et il se nourrit aussi des plantes, donc tout ce qui porte la semence. Et vous voyez donc de le récit de la création, il est équilibré, il est logique, on ne peut pas inverser les différents jours parce que ça ne collerait pas. Et encore une fois, il ne faut donc pas se poser la question comment ça se fait que les luminaires sont le quatrième jour. Quand même pas possible. À ce moment-là, vous posez une question scientifique de nos temps, modernes et postmodernes, qui n'ont pas été voulues à l'époque. Il faut vraiment se dire que nous trouvons dans une autre période. Ce n'est pas ici et maintenant, c'est alors et là-bas. C'est une culture tout à fait différente, une manière de penser tout à fait différente que la nôtre. Leur conception de Dieu était différente de la nôtre, leur conception du monde différente que la nôtre. Par exemple, ils pensaient que la terre était plate. Je ne sais pas comment cela se fait qu'il y a des adventistes de nos jours qui défendent l'idée que la Terre est plate et que le fait qu'elle soit présentée comme ronde, c'est considéré comme c'est un complot, etc., etc. Non, il ne faut pas penser comme aujourd'hui. Il ne faut pas penser comme eux, il faut voir la différence et être capable de faire la transition. Regardons un tout petit peu ce qui était le plus important. Je reviens un peu en arrière. Pour regarder là, du C au E, il y a quatre œuvres créatrices. Du C prime au E prime, il y en a quatre. Seulement, l'homme vient à la huitième place. L'homme est appelé à régner sur tout ce qui précède. Donc, il y a sept œuvres créatrices sur lesquelles il doit régner. Il devient le roi de la terre. Il devient le roi de la terre en tant qu'image du roi de l'univers. Et c'est là où il faut mettre toute l'attention, l'homme en tant que celui qui est créé un tout petit moins de Dieu. Alors, regardons cela un peu de plus près. Je fais cela de droite à gauche, l'hébreu. Donc, en français, il créa, qui est le « il » C'est Dieu qui créa. Qui créa-t-il l'homme à son image? Là, se pose la question, à l'image de qui? Est-ce que l'homme a été créé à l'image de Dieu ou à l'image de lui-même? Et nous trouvons ici dans ces récits, dans une portion qui est de la poésie. Et vous voyez, la poésie suit d'autres règles que la narration. Et d'habitude dans la Bible, quand il y a tout d'un coup un morceau de poésie dans un récit, ça veut dire que c'est plus important. Ça porte plus loin, ça a beaucoup plus de poids. Alors, dans la poésie, nous avons des phrases parallèles. Quand il y a des phrases parallèles, la règle est que la deuxième phrase va expliquer la première, va donner plus de compréhension. Alors voilà, ici, dans la deuxième phrase, nous avons la réponse, l'image de qui? L'image de l'homme ou l'image de Dieu, à l'image de Dieu, il a créé, c'est Dieu qui a créé, lui. Voilà. Bien sûr, le lui, c'est un masculin en hébreu. Mais il y a une troisième phrase qui suit. Parce que qui est ce lui? Eh bien, voilà, homme et femme, il a créé les. Il les a créés, il a créé l'homme, l'humain, et il l'a créé en tant que pluriel. Ou un duel, il faudrait dire. Hein, vous avez le singulier, vous avez le pluriel, mais entre les deux, il y a le duel. Et voilà. Donc, il a été mis en avant. Maintenant, se pose la question, est-ce que l'homme a la priorité sur la femme? Une question qu'on a tendance de répondre par le positif. Et pourquoi? Parce que quand on mentionne deux personnes, c'est l'habitude dans l'ancien Moyen-Orient et en ancien Israël, c'est toujours la première personne qui est la plus importante. Donc on pourrait dire, voilà, l'homme est plus important. Ok, est-ce que c'est quelque chose d'automatique, absolu? Non. Vous vous rappelez que quand Aaron et Myriam sont nommés, à un certain moment, c'est Myriam et Aaron. Inversé. Et c'est pas que les auteurs bibliques ils écrivent comme ça entre leur soupe et leur patate. Non, ils pèsent tout, ils calculent tout, ils réfléchissent pour le mieux l'exprimer. Donc il faut toujours y voir une certaine raison. Et bon, quand on lit le récit, c'est Myriam qui a incité Aaron pour se rebeller contre Moïse et par conséquent, c'est elle aussi qui est punie d'une façon plus grave que Aaron. Un autre exemple. On était dans le livre des Actes, hein, le trimestre passé. Alors, vous avez remarqué, bon, d'abord Barnabé et Paul. Barnabé, Paul, Barnabé, Paul. Tout d'un coup, ça change. Paul, Barnabé, Paul, Barnabé. Ça veut dire que Paul prend la relève, il prend la direction. Entre-temps, il s'est habitué à cette nouvelle phase dans sa vie, sa relation avec le Christ, et c'est lui qui prend le devant. Donc ici, on pourrait se dire, c'est l'homme qui est premier. Mais c'est difficile. Quand on veut parler de... prenons Claude et Colia, quand on veut les mentionner, il faut mettre un en première position. Si je mets Colia en premier, on pourrait dire Claude est moins important que. Si je mets Claude en premier, on se dirait, mais lui, il est quand même l'ancien, et Claude ne l'est pas. Vous voyez? Donc, il faut faire attention. Et c'est pour ça que c'est important, cet après-midi, d'être là et d'étudier le deuxième récit de la création, parce que là, la chose est mise en équilibre. Donc, encore une fois, règle, vous avez la poésie dans votre récit, c'est plus important que le reste. Ça veut dire que l'auteur veut mettre toute votre attention là-dessus, tout le poids là-dessus. Deuxième phrase, explique, clarifie la première phrase. S'il y a une troisième, la troisième clarifie la deuxième et la première. Donc, vous voyez, ça, c'est très, très précis. Alors, regardez un tout petit peu comment ça fonctionne. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il a créé lui, homme et femme, il a créé eux. Regardez un tout petit peu comment la répétition est là. Il y a trois phrases, le verbe créer est présenté trois fois. Pourquoi? En tout dans le récit, le verbe créer est sept fois là. Sept fois. Trois fois pour l'homme. Ce qui souligne son importance. Et le verbe créer, mes amis, c'est un verbe qu'on ne peut jamais trouver en tant que lié au sujet qui est autre que Dieu. Donc quand on a créé, c'est toujours Dieu qui a créé. L'homme n'est pas capable de créer. Il sait faire les choses, mais il ne sait pas créer. Dieu crée les choses et fait des choses, mais uniquement Dieu. Alors voilà. Trois fois. Quand dans un texte, quelque chose est répété trois fois, vous pouvez être tout à fait au clair que l'auteur veut souligner ce fait-là. Il ne s'arrête pas là. On peut voir que c'est Dieu qui est le sujet. Et trois fois là, il est là. Et puis, à son image, l'image, l'homme et femme. Ce qui veut dire qu'ici, l'homme et la femme sont image de Dieu. Je dis ça parce que pendant toute l'histoire de l'Église, et on va voir ça cet après-midi, la femme a toujours été considérée comme inférieure à l'homme. Et même n'étant pas l'image de Dieu. Uniquement l'homme était considéré comme image de Dieu. Et la femme, parfois par les pères d'Église, en dessous l'animal. Les sœurs, est-ce que vous ne vous révoltez pas? Moi, je me révolte. Alors, regardez, il n'y a pas que le sixième jour qui est important. C'est aussi le septième jour. Le septième jour qui est mentionné trois fois. Et regardez comment il s'est construit. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour, le septième jour, son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il sanctifiait le, il le sanctifiait. Et parce qu'il se reposa en ce jour de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Vous voyez ce qu'il a fait trois fois. Oui. Le septième jour est mentionné trois fois, alors qu'il y a encore deux autres cas où il aurait pu être mentionné. Mais c'est simplement pour vous faire comprendre que ce jour est essentiel. Parmi les sept, il est absolument essentiel. Et si vous regardez bien, c'est au milieu de ces sept phrases que que Dieu bénit le septième jour. Pourquoi est-ce qu'il bénit le septième jour? Pourquoi cette bénédiction se trouve au milieu? Qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites à la sortie, « Bon sabbat, que le Seigneur te bénisse. » Ouais? Ou « Je te souhaite un jour béni. » Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous avez en tête? Pour expliquer le verbe « bénir », il faut rester dans le récit. Et à deux autres reprises, Dieu utilise le verbe « bénir ». Il bénit les animaux du cinquième jour et fait suivre « Multipliez-vous, soyez et remplissez la terre. » Quand il s'agit de l'homme, « Multipliez-vous. » Donc Dieu bénit les animaux du cinquième jour, il bénit l'homme et il doit se multiplier, qu'il soit fructifié. Eh bien, de là, on peut déduire que le septième jour doit aussi avoir une multiplication. Il ne faut pas avoir l'idée erronée qu'il n'y avait qu'un seul jour, un seul septième jour, un seul jour de repos, un seul jour saint, mis à part. Non, il a terminé sa création. Et il a donné sa bénédiction, et c'est pour ça que cela se trouve au milieu de tout ce paragraphe qui concerne le sabbat. Ok, alors, premier récit de la création, dont deux passages ont été lus, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, il y a une succession, il y a d'abord la lumière, puis il y a l'étendue des eaux, puis il y a les plantes, puis il y a la distinction entre les luminaires, puis il y a les animaux de l'eau et de l'air, et puis l'homme qui est maître, il est roi des animaux. Ça se culmine dans le septième moment, c'est le septième jour. Voyez un tout petit peu comment la chose est construite. Vous allez trouver la même chose avec un autre accent dans le deuxième récit, on verra ça cet après-midi. Alors, quand on réfléchit avec ces données, avec cette lecture appliquée, close reading, comme les Anglais disent, quand on lit le texte et on regarde dans tous les coins du texte, on voit comment il est construit, on voit comment les mots sont utilisés, le rythme et tout, avec le bet qui est fermé vers le passé, fermé vers le haut, fermé vers le bas, on devrait pouvoir conclure qu'au fond, celui qui a écrit le texte, il ne l'a pas écrit pour les paléontologues, pour les biologistes, les scientifiques et les archéologues. Il n'a pas écrit ce texte pour les historiens, pour les philosophes, pour les dogmaticiens, les mystiques. Il s'adresse au peuple d'Israël. Pourquoi le peuple d'Israël? Parce que c'est le livre d'Israël. La Genèse, c'est un livre pour Israël, par Israël. L'Exode, pareil. Lévitique, Nombre, Deutéronome. Les cinq forment la Torah. C'est leur code de foi, donc c'est d'adresser à Israël et à ce peuple d'Israël dans son pays et dans l'exil. Aussi bien quand il est encore en Israël, la terre promise, et après dans le pays de Babylone. Et c'est un message tout dépourvu de données scientifiques, d'exposés théoriques quelconques. Essayez, ce n'est pas facile pour nous occidentaux. Nous avons été formés par l'école secondaire d'un esprit logique. Quand on dit cela, ça doit correspondre exactement à ce qu'on dit. 2 plus 2, c'est 4, etc., etc. C'est tout à fait très précis, très logique, noir et blanc. Mais pour Israël, ce n'est pas le cas. Pour Israël, ça peut être 2 plus 4, c'est 5. Israël ne pense pas comme nous. Les textes ne pensent pas comme nous. Donc, il faut en tenir compte. Il faut toujours, une fois, deuxième fois, toujours se rendre compte que ce récit ne se focalise pas sur le comment de la création. Oui, bien sûr, par la parole. Il dit, et la chose arrive, mais ça veut dire quoi? Ouais. Ni sur le quand de la création. Oui, on peut dire au début, mais quand? Où est-ce qu'il faut le situer dans le temps? On ne le sait pas. Le récit de la création est un message. Un message visant la relation d'Israël et de l'homme avec Dieu, avec la nature et avec l'homme sous la forme de trois choses. Donc, encore une fois, c'est un récit écrit par un Israélite pour Israël, englobant l'humanité. Et comment il faut le comprendre? Comme un hymne, louange, un chant, si vous voulez, comme une prédication, comme un enseignement. Regardons ça de plus près. Voilà, les trois dimensions. Le vert, c'est la nature, c'est la création. Le rouge, c'est la société qui correspond à la relation de sang que nous avons l'un avec l'autre. Et puis le bleu représente le ciel. Donc, nature, louange. Quand on regarde la création, quand vous regardez les documentaires à propos de la création, moi, je ne sais pas comment vous le voyez, mais c'est quand même impossible de dire, voilà, il n'y a pas quelqu'un qui a fait cela. Il doit y avoir un Dieu. Eh bien, le récit de la création témoigne de cette conviction. Et le fait d'une façon de chant, de louange, il est grand. Vous avez, quand vous relisez le texte, vous voyez qu'au fond, l'auteur ne dit rien de qui est Dieu. Il n'explique pas. Dieu est là, il crée, il parle, il fait. Mais qui est-il vraiment? C'est uniquement au sixième jour, lorsqu'il crée l'homme, où on a un peu une idée de qui il est, parce que l'homme est créé à son image. L'homme représente Dieu. L'homme, cherche un autre verbe, il représente et il reflète Dieu dans le monde. C'est uniquement là. Donc on peut dire que l'homme a quelque chose de divin en lui et Dieu a quelque chose d'humain en lui. Là aussi, je le prends pour mon compte, je ne l'impose pas, mais ce que je comprends par le texte. Donc, à partir de la nature, de la création, on est amené à Dieu. Une fois qu'on se rend compte et on est convaincu que cette nature est créée, alors on se demande, mais alors moi, qu'est-ce que je fais dans cette création, dans cet univers? Eh bien, on reçoit dans le texte une prédication. Une prédication qui est adressée à l'homme. C'est-à-dire, et toi, tu n'es pas un animal, tu n'es pas un singe, et toi, tu es image de Dieu. Ça veut dire qu'il y a une vocation, il y a quelque chose que j'attends de toi, dans ta nature, c'est impliqué. Une prédication. Tu te rends compte combien grand tu es? Non pas combien petit tu es, mais combien grand tu es par rapport aux animaux, par rapport aux arbres, par rapport aux montagnes. Et puis, une fois qu'on se réalise cela, on en est amené à écouter ce que Dieu dit. Il nous enseigne, il faut remplir la terre, il faut régner sur les animaux, etc., etc. Donc, en quelque sorte, on peut dire que c'est un hymne, c'est de louange sur Dieu. Dieu est unique, il est grand, tout-puissant, maître de l'univers, il est créateur du monde, de la vie, des animaux, de l'homme et de la femme, du temps, du septième jour, il faudrait que j'aligne mieux. Dieu est souverain sur toutes les forces naturelles et c'est donc ce récit de la création, c'est une confession de foi de celui qui a écrit. Et d'Israël qui a accepté ces textes comme ces textes à lui. Une confession de foi que Dieu seul est digne d'être adoré. Vous reconnaissez cela, bien sûr, hein? Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. et adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et je vois que la référence Apocalypse 14, versets 6 et 7 est tombée sous l'image. C'est parce que les choses ont été bousculées. OK. Et pourquoi il ne bouge plus? Je le fais à la main alors. Deuxièmement, c'est une prédication qui invite à l'imitation, appelle l'homme à refléter, représenter Dieu, multiplier son image. Elle souligne que les hommes sont égaux, l'homme et la femme, tous, sont tous les deux images de Dieu. C'est une prédication qui témoigne du lien d'Israël avec Dieu, avec l'humanité, avec la terre. C'est une prédication qui rappelle l'importance et le sens du septième jour. En tant que l'endroit de rendez-vous, c'est donc une prédication qui appelle l'homme à imiter Dieu. Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Lévitique 19, versets 1 et 2. Donc, regardez, d'un côté, on est image de Dieu, c'est une confession de foi. Deuxièmement, du fait de cela, nous sommes appelés à refléter et représenter Dieu. Troisième élément, c'est une leçon d'enseignement pour que l'homme, enfin, doit poursuivre la création. Trop souvent, on dit que Dieu a fait création, c'était parfait. Ça ne correspond pas au texte. Vous pouvez le penser, hein, mais ça ne correspond pas au texte parce que le texte dit « Tov ». Me'od Tov, très bon. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas parfait. D'ailleurs, autre chose, le verbe parfait, perfection, n'existe pas en hébreu. Ça nous pose un problème, hein, quand Jésus dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Il a parlé l'araméen, l'hébreu. Il ne peut pas avoir dit ça parce que ça n'existe pas en araméen, pas en hébreu. Il a utilisé le mot tamim qui veut dire intègre. Soyez intègre, que votre oui soit oui, votre non soit oui, soyez d'une seule pièce, pas deux visages, pas deux registres sur lesquels vous jouez. Très intéressant. Donc, la création n'était pas parfaite. Pourquoi? Elle devait être poursuivie par l'homme. L'homme doit se procréer. Et ainsi, il est image de Dieu. Il doit remplir la terre. Il doit sujettir les animaux. Un enseignement pour Israël, afin de réaliser son statut d'image de Dieu. Vous voyez très bien que Israël, en Exode 19, est appelé un peuple saint, un peuple modèle. Eh bien, le récit de la création contribue à cette idée. Un enseignement pour l'homme afin de faire ressortir l'importance et le sens du septième jour. Moi, je suis fier d'être un adventiste du septième jour. Absolument. Et je suis fier qu'il y ait un peuple juif qui le fait toujours, qui aussi célèbre le septième jour. Ce n'est pas une raison pour que je commence à me comporter d'une façon supérieure des autres chrétiens. Mais j'espère être une image de Dieu qui peut inciter d'autres à y réfléchir. Vous voyez la différence? Moi, je n'utilise jamais des textes bibliques pour convaincre. Je ne convainc pas. Je partage ce que je pense avoir compris. Mais les résultats de vouloir convaincre les gens ne sont pas aussi... pas aussi de succès que de témoigner quelque chose. Et le témoigner, ça ne doit pas toujours être par des paroles, hein, mais célébrer le sabbat. Et vos voisins vont le voir. Ce n'est pas la nature, hein, qui indique qu'aujourd'hui c'est un jour de sabbat. Il n'y a rien qui indique qu'aujourd'hui c'est un jour de sabbat. Uniquement vous et nos frères et sœurs juifs et d'autres adventistes ou baptistes du septième jour. C'est à l'homme de faire ou de briser le sabbat. Si vendredi soir, le prochain vendredi soir, vous décidez de ne pas célébrer le sabbat, il n'y aura pas de sabbat. Mais si vous décidez de le célébrer, il y aura un sabbat. C'est pour ça qu'on est tellement important en tant qu'homme et femme. On a cette possibilité de faire vivre le sabbat, le septième jour, en tant qu'image de Dieu. Dieu, lui, il se repose. Dieu, lui, il le bénit. À nous d'être son image et de le faire. Donc, c'est une leçon, ce récit de la création, une leçon comment l'homme pourra réaliser sa destinée en tant qu'image de Dieu. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu te prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Qu'est-ce que j'entends dire? Vous êtes d'accord? C'est ça le mot important, d'être d'accord avec ce que la Bible nous présente. Alors, bien sûr, nous avons parlé de l'humain, nous avons parlé de l'homme et de la femme. Cet après-midi, il faudrait qu'on fasse la part des choses et voir comment cette relation a été conçue. Parce que comme si moi je comprends bien le deuxième récit de la création, c'est comme une focalisation sur un aspect du premier récit. Je m'explique, je donne une illustration. Vous allez au théâtre ou en concert, la salle est en obscurité, on ouvre les rideaux et on voit tout. On voit toute la scène avec le petit oiseau canari, on voit le petit poisson, on voit le chien, le chat, on voit la dame de la maison, l'homme, on voit les plantes, dans les fleurs, on voit à travers la fenêtre, on voit l'arbre, on voit le soleil, etc. On voit tout. Ça, c'est le premier récit de la création. Deuxième récit de la création correspond à ce que obscurité dans la salle, les rideaux s'ouvrent et il y a un faisceau de lumière sur cet homme qui est assis sur sa chaise, qui lit le journal, maintenant boutade, et la femme entre avec le thé. On va voir cet après-midi que ce n'est pas le rôle que le récit, le deuxième récit, le second récit de la création veut nous faire comprendre. Que le Seigneur puisse vous bénir de continuer à réfléchir sur cette richesse de ce premier récit de la création. C'est inouï. On n'arrive pas à dire, voilà, maintenant j'ai tout compris, maintenant j'ai tout saisi. Ça augmente, ça continue, ça progresse. Et pour moi, je n'ai qu'une admiration inouïe pour cette écriture, ces premières pages de la Bible que je chéris. J'espère que vous partagez en partie ce que je ressens. Que le Seigneur vous bénisse ce jour de sabbat, ce jour unique qui nous est cher à cœur et que nous créions une atmosphère bénie, sanctifiée et de repos dans nos relations.